Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Et voilà, c'est parti. On retrouve Jeanne et Agathe de Solutions Mobilité. Alors, d'habitude, je pose une question trajectoire personnelle, mais peut-être que je devrais demander, alors, poser le premier sujet de philo. Alors, non, je plaisante. on va pas changer nos habitudes.
Non, ça va être un peu fastidieux, sinon je sens là.
Ça peut prendre du temps.
Ouais, on va commencer peut-être par Jeanne, une petite trajectoire personnelle pour avoir une idée du chemin que vous avez parcouru pour arriver ce jour à ce micro.
Alors moi du coup j'ai fait un BTS ESF, donc économie sociale et familiale à l'ITS de Pau, et après j'ai fait un diplôme d'état, donc conseillère en économie sociale et familiale, pour donc être CESF, donc travailleur social. Par la suite, donc je suis arrivée au sein de Solutions Mobilité en janvier 2024, donc ça fait 2 ans et demi que je suis sur ce poste-là.
D'accord. Alors, c'est comme formation, là, c'était votre trajectoire prévue, c'était plutôt travailler dans une administration ou alors l'associatif, c'était votre objectif ?
Alors, c'est vrai que moi, c'était l'accompagnement social, et si je pouvais rester sur le secteur de Dax, c'était au mieux. Donc, je ne connaissais pas cette association, mais quand je l'ai découverte, ça correspondait à mes valeurs. Donc, très intéressant.
Très bien, merci beaucoup. On va se tourner maintenant vers Agathe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous, Agathe ?
Alors, moi je suis d'origine toulousaine et je me suis installée dans les Landes, entre le Pays Basque et les Landes, il y a 10 ans, après avoir vécu quelques années au Canada, au Québec, où j'ai découvert le monde associatif. Mmh. Moi, à la base, j'ai une formation en aménagement du territoire et sciences politiques, donc parfois un peu déconnectée, on va dire, des territoires. Mmh. Et j'ai découvert là-bas une façon de faire beaucoup plus ancrée sur le terrain, réponse aux besoins des publics ou des populations vulnérables. Et ça m'a plu. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai cherché un petit peu dans ce secteur-là. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure Solutions Mobilité, donc en 2016, il y a 10 ans. Mmh. Voilà, à l'époque, j'étais la seule salariée de l'association. Et maintenant, on est 8.
Ah donc, oui, c'est une belle montée en puissance.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et puis, voilà, c'est un modèle qui est relativement efficace, qui est efficace quand même sur les territoires. Oui. Donc, on n'est pas les seuls en France, hein, y a plein d'associations dans chaque région qui sont des plateformes de mobilité et qui travaillent sur l'autonomisation des publics qui sont en difficulté.
D'accord.
Voilà.
Alors, j'en profite de l'occasion pour vous demander un petit peu, justement, tiens, parce que bon, là, je commence à connaître les auditeurs aussi un peu le tissu associatif ici, comment ça fonctionne. Il y a énormément d'associations. Et le modèle canadien, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des différences notoires ? Parce que je ne connais pas du tout, j'essaie d'imaginer.
Disons que ça se ressemble, mais il y a quand même. Ils sont très progressistes depuis. Ils ont souvent 10 à 15 ans d'avance sur pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est. Approche en fait du travail social, la place des femmes aussi dans la société. C'est une société qui est quand même très ouverte et qui permet d'expérimenter des choses sur des territoires aussi qui sont très grands, puisque le Québec c'est très étendu, donc il y a pas mal de problèmes de mobilité. Donc c'est assez intéressant, ils ont développé pas mal d'approches, notamment sur le covoiturage à l'époque. Aujourd'hui c'est quelque chose que nous on connaît très bien, qui est inscrit dans les habitudes de tout un chacun, mais eux ils avaient mis ça en place depuis des années pour pouvoir justement se déplacer. Ou par exemple, il y a les bus scolaires jaunes qu'on connaît tous. Là. Donc, ils ne sont pas simplement réservés aux élèves, mais il y a des personnes qui peuvent les prendre pour aller travailler si leur lieu de résidence et leur lieu de travail se trouvent sur le trajet du bus.
Ah, oui, d'accord.
Donc, en fait, ils font un usage mixte des bus pour optimiser le bus. Ouais, c'est des petites choses, mais qui sont intéressantes.
Ah bah, du coup, si vous pensiez qu'ils avaient de l'avance sur certaines choses, ça vous a peut-être donné des idées de méthodes à appliquer ici qui n'étaient pas encore d'actualité, du coup.
Oui, alors ça, c'est des exemples opérationnels, on va dire très concrets, mais c'est aussi sur la façon de construire des projets en collectif. C'est-à-dire que, en fait, c'est des citoyens qui vont faire remonter des besoins et qui vont s'organiser pour répondre aux besoins en lien avec les collectivités. Donc, c'est surtout cette méthode de coopération qui est de l'économie sociale et solidaire qui est vraiment inspirante et c'est toujours très agréable d'échanger avec eux parce que ils ont une approche vraiment chouette.
Ah ouais, très
de l'ESS.
Bien. Ouais. Bah, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant d'avoir des nouvelles de nos cousins canadiens. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que les choses se font différemment et d'où l'intérêt de pouvoir échanger et voyager hein, pour confronter un petit peu les manières de faire et de voir. Hein, c'est. Alors parlons de solutions mobilité. On va expliquer un petit peu ce que c'est. Alors déjà il y a plusieurs points physiquement concrètement plusieurs lieux sur les Landes en tout cas.
Oui. Alors, nous, on est actifs sur le sud des Landes. Mmh. Donc, ça représente 4 grands territoires. Il y a la communauté d'agglo du Grand Axe. On a la Max, Marraine Adour Côte Sud. Mmh. Le Seignance et Pays d'Orthe-Arrigan. Donc, c'est le sud des Landes. Ça représente 4 intercos sur 14. Mmh. Mais c'est la moitié de la population puisque y a plus de densité en fait sur, oui. sur ce territoire-là.
Oui.
Donc on est présent à Tyros, Souston, Tarnos, Peyrorade,
Dax et Cap-Breton.
D'accord. Voilà. Donc très l'idée bien. C'est d'aller au plus près des publics.
Oui, bien sûr. Oui.
Dans des bureaux qui sont accessibles. Par exemple à Dax, on est juste à côté, à Pulseo.
Ah oui, bah ouais. Pulseo, effectivement, c'est pas loin. Oui. Alors, donc, il y a quand même pas mal de monde, des salariés. Et vous avez aussi des bénévoles. Vous êtes constitué de
alors, quoi non, pour l'instant, on n'a pas de bénévolat parce que l'objet de l'association, c'est vraiment le travail social et la mobilité.
D'accord.
Donc, ça prend quand même des qualifications spécifiques.
Oui.
Donc, Jeanne, par son parcours, est une bonne illustration. Ce sont des travailleurs sociaux.
D'accord.
En fait, qui sont capables d'évaluer les problématiques d'une personne face à la mobilité et d'organiser autour d'elle les réponses. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas de bénévoles puisqu'on est sur de l'accompagnement social.
D'accord. Alors, bon, là, le sujet, effectivement, c'est de la mobilité. Alors, bien sûr, on va revenir sur un sujet récurrent avec certaines associations, c'est la spécificité de notre territoire rural. Hein. Donc, sans véhicule, parfois, c'est quasiment impossible de faire soit des courses, soit éventuellement là, travailler. Hein. Donc là, c'est vraiment votre cœur de métier, c'est vraiment cette problématique-là.
Oui, tout à fait. On y est tous confrontés. Pour aller au boulot, on doit quasiment tous prendre la voiture, surtout pour des usines ou des gros employeurs qui sont à l'extrémité, on va dire, de Dax. Sachant que avoir une voiture, ça coûte aussi de plus en plus cher. Voilà, on rencontre des grosses problématiques au niveau de l'entretien des véhicules et de l'accès aussi au niveau de l'achat.
Ouais, c'est vrai que voilà, donc dans une grande ville, hein, il y a des études qui ont été faites, une vraie grande ville, on n'a pas besoin de voiture, même à la limite c'est plutôt un handicap, hein, il faut la garer, il faut l'entretenir, enfin voilà, parce qu'il y a un réseau de transport en commun, etc., qui permet de faire tout ce qu'on a fait dans une ville, mais dès qu'on est en milieu rural, ça devient compliqué en fait.
Oui, puis souvent c'est un peu la double peine aussi parce que c'est très lié au logement. C'est-à-dire que nos territoires, on les connaît, notamment sur la côte, le littoral, c'est extrêmement difficile de se loger.
Oui.
Les prix, on connaît les prix des logements. Donc les personnes sont obligées de s'éloigner possible vers des secteurs où le foncier est moins cher. Mmh. Ce qui fait que parfois il y a besoin même de 2 voitures quand c'est un couple, par exemple, deux bassins d'emploi différents. Plus les mamans, souvent, parce que c'est souvent les mamans qui en plus font les trajets fractionnés entre les rendez-vous médicaux, le sport le mercredi, etc. Donc il y a une question aussi de charge mentale très forte qui nécessite une mobilité de ces personnes.
Oui.
Et évidemment, il y a des bus le matin, le soir, mais pas forcément sur horaire régulier.
Ouais. Comme quoi, même dans la mobilité, la parité n'est pas respectée, il y a toujours une charge plus lourde pour la maman que pour le papa.
Nous, on voit hein, dans nos statistiques, c'est assez clair, les personnes qu'on accompagne, c'est environ 800 à 1000 personnes chaque année. On a 60%, voire 62-63% de femmes selon les secteurs. Mmh. Donc il y a une vraie problématique d'accès à la mobilité pour les femmes, qui est un droit, et qui souvent, dans le cadre d'une séparation par exemple, l'homme va partir avec le véhicule, ou bien le permis de conduire aussi. Statistiquement, il y a plus d'hommes qui l'ont que de femmes, pour plein de raisons.
Oui.
Donc, c'est un public auquel on fait un peu plus attention parce que, voilà, c'était des besoins supplémentaires. Et en plus, donc, de l'accès à un véhicule, il y a aussi, donc, ce que je disais, la charge mentale et les problématiques d'organisation. C'est-à-dire que parfois, elles sont aidantes aussi pour leurs propres parents, les enfants, etc. Donc, ça devient un vrai casse-tête, la mobilité.
Oui, c'est vrai. Et puis souvent les familles monoparentales, ben alors je n'ai pas la proportion en tête exactement, mais c'est souvent une femme en fait. Hein.
C'est 90% des familles.
Ah, oui, c'est très rare de rencontrer des pères, il y en a quelques-uns
qui sont dans les mêmes galères du coup, hein, c'est pas une question, voilà, c'est juste statistiquement, c'est quand même massif. Oui. Et en fait, il n'y a aucune politique publique pour l'instant qui va vers ces publics-là, qui sont quand même, elles sont nombreuses, et donc un petit peu d'hommes aussi, et qui cumulent des freins terribles. C'est-à-dire que même accepter et avoir un emploi, souvent, c'est moins évident, c'est plus difficile que de devoir s'occuper des enfants, la famille, c'est vraiment galère. Donc nous, on essaie de répondre à ces personnes qui sont toutes envie de travailler, de se former, etc. C'est même pas le problème.
Oui.
Et assurer les loisirs des enfants, leur transport, etc. etc.
Bien sûr. Bon, on va déjà faire une petite pause musicale et on retrouve ensuite nos invités pour la deuxième partie de cette émission. À très vite. C'était Julien Clerc avec À Bicyclette. Je crois que c'est de circonstance. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et surtout, qui peut s'adresser à vous? En fait, ça concerne qui, vos actions?
Alors, nous, du coup, c'est des prescripteurs qui peuvent nous orienter des personnes. Donc, c'est les travailleurs sociaux ou alors des conseillers aussi en insertion pro, donc conseiller France Travail ou mission locale. Et ensuite, donc, nous, on reçoit les dossiers des personnes. Chaque conseiller mobilité sur notre territoire. On prend contact avec les personnes et ensuite, on fixe toujours un premier rendez-vous pour faire un diagnostic de mobilité. Pour vraiment étudier toutes les possibilités que peuvent avoir les personnes sur les transports, que ce soit par une voiture ou les transports en commun ou de la mobilité décarbonée. Dans l'objectif donc de l'insertion professionnelle et sociale aussi en parallèle.
Alors c'est quoi le profil de personnes qui peut s'adresser à vous par l'intermédiaire des travailleurs sociaux? Des gens qui sont en réinsertion, qui n'avaient plus de travail, qui ont besoin d'en retrouver un, des gens qui sont en RSA
C'est ça, on a pas mal de personnes qui sont en réinsertion professionnelle et sociale. Après on a aussi des jeunes qui sont... qui arrivent dans l'emploi, dans l'insertion aussi de formation, etc. Après, on a des personnes aussi qui arrivent de pays étrangers, qui arrivent sur le territoire pour qui se familiarisent avec ce que c'est le permis, la mobilité ici dans un territoire assez rural aussi.
Ouais, c'est ça. Et le dénominateur commun, c'est un frein à la mobilité, qu'il soit financier, organisationnel, psychosocial. Mais c'est que des personnes qui sont prêtes à trouver un emploi ou qui l'ont déjà même. Mais le frein pour pouvoir se rendre au travail tous les matins, c'est vraiment la mobilité.
Et oui, c'est ça. Oui.
Donc, c'est un dispositif, en fait, cette plateforme de mobilité qui permet... sur les territoires de faciliter l'emploi, la formation et surtout le maintien en emploi. Ce qui permet justement aux gens de sortir de la précarité, puisqu'une fois que l'emploi est stabilisé, que la mobilité est assurée, c'est des personnes qui peuvent sereinement aller travailler tous les jours.
Oui.
Donc on a calculé avec l'équipe, on a environ 150 à 200 entreprises en fait, qui sont touchées indirectement par notre action. Puisque leur salarié est donc beaucoup plus employable, beaucoup plus fiable sur ses horaires. C'est quand même un outil pour le territoire qui est important en termes d'emploi.
Est-ce que les personnes porteuses de certaines diverses formes de handicap sont concernées aussi par vos actions?
Bien sûr, oui. Alors nous, on ne va pas traiter directement la question du handicap, mais on va via le diagnostic de mobilité, voir en fait les compétences de la personne, ce qu'elle sait faire. Parfois, on peut avoir des limitations et c'est tout à fait normal et OK. Donc nous, on va adapter la réponse. Il y a des personnes pour qui le permis de conduire, c'est très compliqué, oui. Que ce soit sur le passage de l'examen, sur c'est un diplôme, hein, le permis de conduire, c'est pas facile du tout. Donc on va voir peut-être sur des véhicules sans permis qui sont peut-être plus adaptés. La pratique du vélo aussi, c'est pas incompatible avec le certaines formes de handicap. Et l'accès au transport en commun qui peut être très impressionnant parfois. Et une fois que c'est débloqué, on va dire la personne peut l'utiliser quotidiennement. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait des petits groupes avec qui on va les accompagner pour prendre le train. On va faire le trajet, par exemple, ce Dax Bayonne. Donc, on va montrer la gare, guichet, etc. Pour rassurer les personnes. Et parfois, ça suffit pour déclencher des nouvelles habitudes de mobilité. Confiance en soi, briser son isolement. Donc, on est dans cette approche très de terrain, quoi, pratique, quoi.
Voilà. Oui, puis c'est vrai que la France Travail, il y a une notion d'emploi raisonnablement acceptable dans les prérequis, dans le dossier quand on le monte, etc. Et là, la distance à laquelle on est susceptible de travailler est fondamentale dans la probabilité de trouver un travail.
Oui, puis c'est trouver un travail proche de chez soi, c'est quand même, on fait des économies déjà en temps, en argent. C'est des solutions qui sont quand même plus durables. On produit moins de carbone aussi. Donc, on essaie de rationaliser un petit peu ça, les déplacements des personnes et de faire un vrai travail de fond autour du budget aussi, parce que la mobilité coûte très cher aujourd'hui.
De plus en plus.
Moi, je suis née dans les années 80, mais le permis, la voiture... c'était pas du tout une source de stress financier, puisque c'était quand même assez accessible. Et donc, à 18 ans, on passait son permis.
C'était systématique, hein, on va dire.
On faisait pas de covoiturage trop. Alors maintenant, avec l'essence à 2 euros, c'est pas du tout la même.
Ça c'est sûr. Alors, ce diagnostic mobilité, en quoi ça consiste? Alors, j'imagine... Quelqu'un vous est envoyé par un travailleur social, un de vos partenaires, et il dit, il y a cette personne-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte déjà un examen d'un dossier avant l'entretien, j'imagine?
Alors, c'est ça. Nous, on voit vraiment la vision sur l'accompagnement global de la personne, donc avec l'accompagnement mobilité, mais aussi tous les freins qu'on a un petit peu évoqués jusqu'à maintenant, qu'il peut avoir en parallèle, notamment la garde des enfants, déjà pour voir la réinsertion professionnelle derrière, l'équilibre budgétaire pour pouvoir accéder à la mobilité, payer soit une location d'un véhicule, soit l'achat. Et puis après, tout l'entretien et puis l'essence qui va avec. Donc nous, on essaie de voir vraiment tous ces points-là et de favoriser au maximum, la meilleure possibilité pour eux dans leur gestion. C'est vrai que la voiture, ça reste encore le moyen le plus souhaité pour lequel on a beaucoup de demandes. Oui. Et parfois, on essaye de voir aussi qu'il y a d'autres moyens quand on reste sur un territoire. Notamment avec les transports en commun, même le vélo.
C'est vrai que le vélo électrique a peut-être permis d'étendre un petit peu le périmètre des gens.
C'est une solution qui est très appréciée de plus en plus parce que ça permet d'élargir ce qu'on appelle l'environnement de déplacement à 10-12 km. Et puis surtout, comme il y a l'assistance électrique, on n'arrive pas en nage au travail parce qu'il n'y a pas toujours des douches ou la volonté aussi de la personne ou la possibilité même de fournir l'effort. Nous, on a un service de location solidaire. Donc, on a des voitures, des scooters et des vélos électriques depuis quelques temps. Et ce qu'on remarque, c'est quand on fait une location de vélo électrique, en général, la personne, la majorité des personnes, derrière, embraye sur un achat, en fait. Nous, on va aider à monter un dossier d'achat, par exemple, avec des aides financières, si la personne peut être éligible. Et la personne va adopter le vélo, alors pas forcément comme déplacement quotidien, mais au moins ajouter ce type de déplacement à ses compétences.
C'est un achat moins onéreux en général qu'une voiture.
Oui.
Les voitures d'occasion qui peuvent coûter aussi cher que certains vélos électriques, ça par contre, parce qu'il y a, il y a des modèles qui sont...
Mais il y a tous les modèles, il y a tous les prix.
Et c'est vrai que après on est dans les Landes. Ah, est-ce qu'on est encore assez bien fourni en piste cyclable? Ça par contre, je ne sais pas si vous êtes aussi interlocuteur des pouvoirs publics pour justement dire attention, on a un problème de mobilité, etc. à tel endroit, est-ce que vous pouvez envisager des travaux, une piste? Est-ce que vous faites partie de ça aussi?
Alors, pas directement. Nous, ce qu'on fait remonter, c'est les problématiques emploi et mobilité. Donc, forcément, les collectivités, qui sont partie prenante du projet, puisqu'elles nous financent, et elles font partie de notre conseil d'administration, elles sont informées, en fait, sur les problématiques de mobilité qui existent, que nous, on fait remonter. Il y a certains territoires, la voiture, de toute façon, va rester obligatoire. On peut construire des milliers de kilomètres de pistes cyclables. Il y a certains territoires qui sont trop éloignés.
Oui, bien sûr.
Après, c'est vrai qu'on a quand même des pistes cyclables qui sont liées au fait qu'il y ait beaucoup de touristes l'été, hein, notamment sur la côte. Donc ça, il y a certains secteurs qui sont très bien dotés.
Oui.
Et puis d'autres un peu moins. Après, il y a des associations vélo, donc c'est vraiment le travail, notamment Roue Libre en Grand Axe, qui sont nos partenaires, qui font tout ce travail de fourmi et hyper important pour les infrastructures. Nous, on va aller plutôt sur l'accompagnement à l'usage.
Voilà. Très bien. Eh ben, c'est déjà le moment de faire une deuxième pause. On va écouter un petit peu de musique, le Flash Info Local. Et on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. Et voilà, c'est reparti. Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu du profil type d'un bénéficiaire. Ce qui serait intéressant d'avoir aussi maintenant, c'est la trajectoire un petit peu d'un bénéficiaire, sa problématique quand il arrive et il repart avec quoi et content, a priori.
Alors, on va partir sur... souvent l'accompagnement du coup vers la voiture puisque on en a régulièrement besoin pour s'éloigner de Dax. Donc nous on nous oriente les personnes dans le besoin d'obtenir le code de la route. Donc on a des ateliers code toutes les deux semaines. Donc c'est un moniteur d'auto-école qui vient en tant que prestataire de la LPCD, donc l'auto-école sociale, nous faire ces ateliers code pour vraiment accompagner les personnes dans l'apprentissage du code de la route, qui est aussi pas si simple que ça.
C'est des personnes qui pourraient pas aller dans une auto-école classique parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ça va être des jeunes par exemple qui sont tout seuls. L'idée, c'est pas faire de la concurrence aux auto-écoles bien sûr, mais c'est de permettre à ces personnes-là de faciliter leur parcours vers la conduite qui se fait en auto-école classique.
Oui. Voilà.
Oui, bien sûr. Donc, c'est après le diagnostic de mobilité qu'on les place sur ces ateliers quand on voit qu'il y en a le besoin. Et ensuite, ça les permet de passer le code donc, en candidat libre, ce qui limite aussi les coûts. Ensuite, on les accompagne donc, dans le passage des heures de conduite, puisqu'il faut le dire que maintenant, le permis, on est sur un SMIC pour la totalité.
Oui, c'est sûr.
Au-delà. Donc, donc, c'est quand même un coût assez énorme sur lequel nous on peut les accompagner, donc soit pour accéder à un prêt ou alors certaines aides qui peuvent aussi être disponibles sur le territoire, donc pour les jeunes ou d'autres aides aussi pour les familles. Et ensuite une fois qu'on a son permis, c'est toujours pas fini puisqu'il faut acheter donc le véhicule derrière
et l'assurer et mettre du carburant dedans,
c'est ça, et payer la carte grise, donc nous on les accompagne aussi dans l'achat, donc avec des prêts quand les personnes justement n'ont pas accès au crédit bancaire classique.
D'accord.
Voilà, on essaie de trouver des alternatives. Et on peut aussi mettre en place donc, des locations solidaires pour essayer de faire le tremplin. Mmh. Parce que parfois, les personnes, elles ont leur contrat qui va débuter et elles ont juste la difficulté de mobilité qui bloque pour l'accès à l'emploi.
Alors, vous les aidez de quelle manière pour les prêts? Parce qu'on reçoit des fois ici l'ADI, donc leur job, c'est les microcrédits. Alors, vous n'êtes pas une banque non plus, mais vous avez une relation privilégiée avec une banque, avec ce genre de dispositif, en fait.
C'est ça, tout à fait. Alors, nous, on est en contact avec l'ADI, donc on peut mettre en place directement les dossiers pour leur transmettre en interne. Après, on travaille aussi avec une association qui s'appelle Crésus, qui font aussi des prêts. Sur le même système que l'ADI. Ensuite, on travaille avec l'association Emmaüs. Eux, ils ont des prêts à taux zéro. Ça reste sur une somme modérée, donc c'est 1500 euros. Mais n'empêche que ça permet,
de boucler un budget,
un complément ou même achat de scooter aussi, puisqu'on a pas mal de demandes aussi pour des véhicules de roue qui sont un peu plus accessibles pour la réinsertion dans un. Réinsertion pro. Et ensuite on peut aussi solliciter des aides au niveau de la CAF, des collectivités, conseils départementaux pour venir compléter ces financements.
Oui, bon, ça leur donne l'espoir à certains qui pensent peut-être que c'est inaccessible. Alors après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait, c'est quand on cherche un emploi à France Travail dans son CV, on marque véhicule. On l'a pas, et on se dit si jamais ils me prennent, au bout d'un mois, je m'en ferai prêter un, je me débrouille, j'essaierai d'en acheter un. J'imagine que c'est la trajectoire de pas mal de gens, ça, en fait.
Je pense.
Oui, ouais. Totalement. Nous, on voit beaucoup de personnes qui se font prêter les véhicules par des amis, de la famille, qui essaient de maximiser au max voilà,
ouais, leur réseau, bah, c'est la débrouille un peu aussi. Hein, et, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très isolées. Et celles-là, voilà, on va les accompagner plus.
Ils n'ont pas de réseau.
Parce qu'ils n'ont pas de réseau. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent vivre normalement. Quoi. Voilà. Donc, nous, on se base aussi sur... vraiment la proactivité de la personne. C'est-à-dire qu'il faut que le projet, vraiment, la personne, elle soit active dans son projet, notamment sur le permis de conduire, parce que c'est quand même difficile. C'est un examen difficile et on a des très bons taux de réussite de personnes. On n'aurait pas misé au départ beaucoup sur une réussite rapide. Mais finalement, la mobilité, c'est vraiment un outil d'émancipation personnelle aussi, d'apprentissage. Ça, on le voit entre des personnes qui rentrent dans l'association et quelques mois après, qui sortent avec le permis, qui ont expérimenté le vélo électrique, qui prennent un peu plus le train et qui s'achètent aussi leur première voiture. Ben, ça leur donne beaucoup de confiance, on le voit, et d'agilité, en fait, voilà, et de vivre normalement, quoi. Donc, c'est un bel outil, la mobilité.
Ben oui, c'est ça. Alors, vous parliez de l'accompagnement que vous faisiez, là, prendre le train, ça, je trouve ça, c'est sympa.
Ouais.
J'imagine qu'il peut y avoir des gens qui sont ou agoraphobes, ou qui ont un tourette gênant, ou un autisme partiel, enfin voilà, qui, eux, déjà, d'eux-mêmes, en eux-mêmes, ils ont une difficulté à faire ce qui peut pas être simple pour des tas de personnes.
Oui, c'est vrai. Et tu veux témoigner peut-être sur un groupe, vas-y.
Puisque du coup, c'est sur Dax qu'on avait mis donc, une randonnée urbaine, donc jusqu'à Bayonne, effectivement. Donc, on avait pris le train. Et en fait, là, c'était au niveau de l'INSUP sur une formation langue étrangère pour justement familiariser les personnes qui étaient non francophones à comprendre aussi les indications données, comment se diriger ou demander aussi des conseils si besoin pour prendre les billets, etc., les horaires pour pas louper voilà, le train et comprendre les bus aussi par la suite.
Et puis au-delà du handicap, il y a aussi vraiment la question du numérique qui se pose. Alors là, c'est toute une partie en fait de la population qui est en situation d'électronisme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité d'utiliser des applis.
Genre BlaBlaCar pour faire des
voitures. Ouais, exactement. Donc là, par exemple, on va faire des ateliers où on va tout simplement montrer aux personnes comment télécharger l'application, dédramatiser un peu aussi le covoiturage, comment ça se passe les paiements, les transactions d'argent, pour les aider justement à prendre en main ces outils-là. Par exemple, dans les gares de TER, maintenant, il n'y a plus de guichets depuis des années. Donc, c'est que des machines avec des cartes bleues, des cartes de crédit. Donc, il y a des gens qui n'en ont pas ou qui ne savent pas faire. Mais ce n'est pas que voilà, des personnes qui sont en grande difficulté. Ça touche tout le monde.
Bien sûr.
Et ça, c'est une catastrophe parce que ça entrave quand même les gens dans leur mobilité. Voilà.
Nous, on adapte nos actions en fonction des problématiques aussi qu'on voit. Voilà, le projet par exemple de randonnée urbaine, ça a découlé d'une problématique rencontrée pour un groupe en formation. Et il y avait eu aussi un projet qui avait été mis en place avec des femmes sur la remise en main au niveau des véhicules qui avaient leur permis en fait, mais qui n'avaient pas conduit depuis longtemps ou pas en France ou depuis un moment ou qui avaient eu des phobies entre temps, des accidents ou autre qui faisaient que la reprise du volant était compliquée. Ça avait été travaillé avec une sophrologue, etc., pour justement favoriser la reprise de la conduite.
D'autant plus alors que les femmes, elles ont moins d'accidents que les hommes. Statistiquement, on le sait. Donc, du coup, l'assurance, il faudrait qu'elle soit moins chère aussi. Je sais pas, après le Covid, on a eu quelques mutuelles qui ont reversé de l'argent. Je ne sais pas si, au niveau des assurances, il y a eu un delta qui a été fait.
Non.
Là, le problème, c'est que nous, en tant qu'asso aussi, évidemment, on est dépendant des coûts. Et puis on est subventionné, hein, évidemment, parce qu'on ne gagne pas d'argent, entre guillemets, parce qu'on rend un service aussi aux collectivités.
Bien sûr.
Et c'est vrai que tous les frais d'assurance ont explosé, tout est cher maintenant sur les mobilités. Là, on a de la chance parce qu'on est quand même bien soutenu par les collectivités. Est-ce que je peux les citer?
Ah, bien sûr. Ce serait dommage de ne pas le faire.
Voilà,
au contraire,
exactement.
Au contraire.
En fait, déjà, notre 4 interco qui jouent le jeu depuis 10 ans déjà. Donc, la communauté d'agglo du Grand Dax, la Max, Pays d'Orthe et Arrigan, et la communauté de communes du Seignans. Il y a des mairies aussi qui nous soutiennent, Grand Dax, Saint-Paul-les-Dax, la mairie de Tyros, la mairie de Tarnos et bien d'autres, Cap-Breton, Souston. Et en fait, c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil de territoire. Le conseil départemental, la région et l'Union européenne aussi sont impliqués dans les financements parce que c'est une problématique qui touche plein de niveaux, plein de compétences différentes. Et on voit l'effet sur l'emploi, c'est-à-dire que chaque année, on estime entre 200 et 250 emplois qui sont permis d'accès, c'est-à-dire que les personnes peuvent signer un contrat directement par l'accompagnement des conseillers. Donc en fait, c'est énorme parce que l'effet, la cause à effet de l'accompagnement mobilité, il est immesurable, voilà, c'est hyper tangible en fait.
Vous le voyez directement.
Ouais, exactement.
Bon, au moins, vous êtes contente le matin en vous levant, vous savez que vous allez permettre à des gens de travailler.
Oui, bah alors...
Ah bah c'est pas mal, bah si.
Non, c'est vrai.
C'est vrai.
On peut se dire ça tous les matins.
Ah bah, oui, c'est vrai.
Bah, c'est vrai, des fois on a un petit coup de mou, on se dit, on regarde dans la glace, ah, quand même, je sais quelque chose dans la société, c'est bien.
Bah dans l'associatif, c'est des métiers qui ont du sens, c'est un mot qui est un peu des fois utilisateur et à travers, mais c'est vrai que nous, en tant qu'équipe, on le sent quand même, voilà, et on se le dit souvent, parce que c'est pas facile, on a beaucoup de monde. On a énormément de demandes, de prescriptions. On n'est pas capable de répondre à tout le monde aussi, parce que nos moyens sont limités.
Quand on voit les projets qui se font, c'est vrai qu'on se les partage et ça nous motive.
Ouais, vraiment.
Très bien. Eh ben, c'est déjà le moment de faire notre dernière pause et on va attaquer la dernière partie de cette émission. Après, un petit peu de musique, à tout de suite. Et un petit Beatles, ça fait toujours du bien.
Trop bien.
Eh oui. Et parlons un petit peu d'actualité et projet, tout ça. Il se passe des choses.
Oui, il se passe plein de choses chez Solutions Mobilité. Alors là, on travaille sur deux projets de maison des mobilités. On essaie un nouveau modèle. Donc il y en a une qui a ouvert à Tarnos il y a une petite année. L'idée, c'est de regrouper plein d'acteurs des mobilités, qu'on ne soit pas tout seul. Donc, à Tarnos, on a un atelier vélo, une station d'autopartage de la coopérative AOPA, et on fait plein d'animations autour des mobilités. Donc, que ça devienne un lieu de vie aussi, où les gens peuvent acheter un vélo, réparer son vélo, rencontrer Solutions Mobilité, pratiquer le covoiturage, etc. Et à Saint-Paul-les-Dax aussi, il y a une initiative. Alors, nous, on n'est pas porteurs de l'initiative, c'est Roue Libre et la LPCD, l'auto-école sociale et l'asso vélo. Et pareil, nous, on a une petite présence et l'idée, c'est de regrouper des services. Donc, c'est à Saint-Paul-les-Dax et ça dessert évidemment toute l'agglo, dans l'ancienne bibliothèque, donc pas très loin d'ici. On essaie ces modèles-là pour que ce soit le plus accessible possible. Et puis, on a une petite vocation d'animation aussi. Donc, le 23 juin, on va recevoir plein d'assos de toute la région Nouvelle-Aquitaine à Tarnos, donc dans la maison des mobilités, pour parler des questions de mobilité. Quelles solutions il y a sur les territoires ? Souvent, c'est assez innovant. Donc, voilà, c'est se nourrir aussi d'expériences des autres. Et puis, soutenir vraiment le monde associatif et local. Parce que, comme on disait en off là tout à l'heure, sans les assos, en fait, ça serait compliqué. Donc, il faut reconnaître le travail de ces associations-là.
Tout à fait.
Et cette journée, ça va être un peu pour ça. Voilà.
C'est pas mal cette maison des mobilités là, parce que ça cristallise plein de choses à un endroit.
Oui.
Notamment le vélo, etc. Donc, j'ai regardé dans vos doc aussi, vous aidez aussi les gens à faire du vélo, parce qu'il y a des gens qui sont passés à travers il y a un trou dans la raquette sur l'apprentissage du vélo, je ne sais pas où c'est.
Tout à fait.
Dans la famille ou à l'école, je ne sais pas quand c'est, je ne me rappelle plus. Mais si, dans la famille, moi, quand j'étais petit, mais...
Tout le monde n'a pas eu cette chance, entre guillemets.
C'est vrai
que le permis, ou des personnes qui ne l'ont pas fait depuis longtemps et qui ont eu ce qu'on appelle des accidents de vie, par exemple, tout simplement, perte de confiance, etc. Et qui ont besoin juste d'une remise en selle, ça s'appelle vélo-école ou remise en selle, ça apporte bien son nom. Et c'est pour donner confiance, mais c'est aussi faire des groupes, briser l'isolement un peu, ça, on va aller chercher ces personnes-là. Et en général, c'est des superbes expériences à vivre aussi en tant que nous, que personnel de l'asso. Et il y a beaucoup de joie, parce que faire du vélo, c'est quand même... super.
Bah oui, les Landes, ça a été créé exprès pour faire du vélo.
C'est plat.
Ben oui.
C'est pas tout plat.
Non, c'est pas tout plat, mais bon. En tout cas, on peut aller jusqu'en Norvège si on est gaillard. C'est possible. Et puis de Dax, on peut même aller jusqu'à la Bayonne maintenant.
Oui,
directement.
Tout à fait.
Ça c'est pas mal, ça, en suivant l'Adour et tout.
Ouais.
Ça, c'est chouette, ça.
Bon, voilà. Et puis aussi, je passe une annonce. Nous, on a un service de prêt de véhicules, donc on est toujours à recherche de véhicules, puisque. Ils s'usent et donc il y a souvent des gens qui nous donnent des scooters des vélos et des voitures en bon état. Alors, pas des derniers modèles, évidemment, mais des véhicules qui peuvent rouler peut-être un ou deux ans avec le contrôle technique OK.
Oui.
Et bah, c'est un beau geste à faire. Nous, on fait des reçus hein, de dons.
Oui.
C'est un beau geste à faire parce que ça permet à, sur une année à 12 personnes d'accéder à un emploi.
Oui.
Ça permet à des mamans et des papas d'amener les enfants au loisir et tout ça, le temps qu'ils s'achètent une voiture. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Via Facebook, on a une page Facebook qui est assez active, donc de nous contacter. L'année dernière, on a eu un scooter. Et ben là, voilà, il est sur les routes. Et il permet à plein de jeunes d'aller bosser cet été dans les campings et tout. Donc, c'est vraiment un beau geste à faire plutôt qu'elle reste dans le garage.
Ben voilà. Très bien. Alors, et puis aussi la mobilité, voilà, on a parlé beaucoup d'emplois, mais vous l'avez dit ici à un moment donné, c'est un lien social aussi. Hein. Ça permet de se déplacer et donc de rencontrer, de voir des gens, de partager, de faire des tas de choses qui sont autre chose que travailler aussi. Et ça, on a tous besoin parce que voilà, il faut qu'on se déplace pour ça souvent.
Oui.
Pour rencontrer les gens.
Même des fois, on voit des personnes qui sont près de l'océan ici, bah, qui n'y vont jamais.
Et oui, c'est dommage.
Et c'est dommage, ouais, et il y a des bus, etc. Donc nous, on les.
C'est
voilà,
vrai qu'il y a un Yego gratuit hein, à Tyros et tout ça, je sais.
Il
voilà,
y a plein d'options, en fait. Il ne faut pas hésiter vraiment.
Les cas régionaux.
Des fois, une fois que l'essayer, c'est l'adopter après. Puis ça, c'est juste une histoire de confiance en soi. Voilà, puis nous, on est là pour ça.
Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous parler de ça. Voilà, c'est un problème dont on n'est pas forcément toujours totalement conscient. Voilà, parce que quand on n'a pas de problème, tout va bien. Et on se rend compte, ah mince, il y a des gens, ils ne peuvent pas aller ne serait-ce qu'au boulot. Et ça, c'est quand même un peu compliqué.
Ouais.
Ben, merci beaucoup.
Ben, merci. Puis moi, je voudrais aussi passer un message. Remercie mon équipe, et Jeanne surtout, d'être venue avec moi et pour la suite. Et voilà, merci à tout le monde.
Merci beaucoup. Au revoir.